Donc une question se pose pour nous, jeunes professionnels, encore à la première étape de la longue course appelée carrière, comment assumer ses engagements et ses reconversions et à quel prix? Merci d'accueillir chaleureusement Jean-François Chemin.
Bon, bonsoir à tous. Alors puisqu'on peut parler de boules, je vais parler de boules. J'aime mieux. Je vais faire comme Johnny Hallyday. Bon, donc finalement, je vais passer un moment très agréable parce que je vais avoir l'occasion de vous parler de moi. Et il n'y a rien de plus agréable à l'expérience que de parler de soi. Donc Isabelle m'a effectivement bien présenté. Quand j'avais 25 ans, et vous avez vu, j'en avais le double, j'aurais pu être à votre place. J'étais débutant chez Ernst & Young à la Défense, bien lancé dans la vie, les dents qui rayaient le parquet. C'était l'époque du Golden Boy, voilà, donc j'étais plein d'ambition et la vie me souriait. En plus, c'était pas encore la crise. Donc j'ai démarré dans cette vie professionnelle qui était toute tracée, et tracée depuis longtemps, parce que j'avais un père qui avait de grandes ambitions pour moi. D'ailleurs, je l'avais déçu en faisant que Sciences Po du droit, parce qu'il m'avait dit, quand j'étais en troisième, tu feras Normal Sup et l'ENA, et tu seras préfet. Bon, j'ai passé Normal Sup, j'ai pas eu, j'ai passé l'ENA, j'ai été admissible, j'ai pas eu. Donc je me suis retrouvé chez Ernst & Young, bon, c'était déjà pas mal. Et puis pendant une quinzaine d'années, je ne me suis pas trop posé de questions. J'ai fait Ernst & Young, deux boîtes et touches. Après, j'ai créé ma propre affaire. Bien sûr, comme je progressais dans la vie professionnelle, j'ai été approché par la franc-maçonnerie. J'ai accepté, ça m'intéressait à l'époque. J'étais en rejet par rapport à la religion catholique de mon enfance. Parce que j'ai vécu une époque... le catholicisme des années 70, c'était pas évident. J'ai eu une culture politique avant d'avoir une culture, pas une culture, mais on va dire, une conscience politique avant d'avoir une conscience religieuse. Je me suis, par réaction contre l'ambiance de mon époque, dès l'âge de 15 ans, je m'étais encarté dans un groupuscule très très à droite, et j'étais devenu assez Nietzsche. Hein. Alors, en terminale, on avait étudié la généalogie de la morale, en Hippocane, on m'avait étudié par de l'Allemagne. Alors je m'étais dit, oui, voilà, le christianisme, Nietzsche a raison, c'est vraiment la morale des faibles, des hommes du ressentiment. C'est une morale de loser, et moi j'appartiens aux vainqueurs, donc voilà, j'avais winner, je suis un winner. Donc j'avais enfourché toutes les théories de ce qu'on appelait à l'époque la nouvelle droite, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce courant. Bon, et tout ça m'avait conduit à rejeter le christianisme et à devenir franc-maçon, non pas au Grand Orient, mais dans une obédience concurrente qui s'appelle la Grande Loge Nationale de France, où on se veut d'hélice et plutôt de droite. Bon. Donc voilà, tout allait bien. Alors la conversion, je ne l'ai pas eue en 2006. Je l'ai eue plus tard, ça devait être en 1995, j'avais 34 ans. Ça a été un truc assez brutal. Alors on m'a demandé de témoigner d'une chose personnelle, je vais vous raconter comment ça s'est passé, peut-être que ça en intéressera certains. J'étais donc en rejet du christianisme et je vais en week-end à Avignon. J'ai des amis qui me disent on va à la messe. Alors je leur dis, écoutez les amis, vous êtes bien gentils, mais le Nietzschéen que je suis a autre chose à faire, je vais rester à la maison. Et ils m'ont dit, non, pas du tout, tu es en week-end chez nous, tu viens à la messe avec nous. Et ils m'ont dit, tu verras, c'est une communauté nouvelle. Je n'avais jamais entendu parler des communautés nouvelles. Ça va peut-être te sembler un peu bizarre, mais bon, ça peut t'intéresser. Je suis arrivé dans une église, j'ai vu des gens vêtus de blanc qui dansaient. Ça me dit, alors, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai eu l'impression d'arriver chez les fous. Et là, il y avait une urne et puis des petits bouts de papier. On m'a dit, tu peux déposer une intention de prière et la communauté va prier dessus devant le Saint-Sacrement. Je n'avais jamais entendu parler de l'exposition du Saint-Sacrement, de tout ça. 24 heures sur 24, c'est bon. Alors je me dis, bon, j'ai rien à faire. J'ai écrit sur le papier, si tu existes, manifeste-toi. On était le dimanche, j'ai assisté donc, à cette messe loufoque dont je vous parlais. En plus, l'église était une sorte de bunker, enfin, il y avait tout pour me déplaire. Toujours est-il que le mercredi, je me suis réveillé, je vous jure, j'étais croyant. Je ne peux même pas vous expliquer ce qui s'est passé. J'étais croyant. Et la seule image qui me soit venue à l'esprit à ce moment-là et qui me vient encore à l'esprit, c'est celle d'une bouteille d'eau plate qui serait devenue d'eau gazeuse. Je me suis réveillé le mercredi matin, j'étais gazeux. Alors, il y a eu des conséquences assez rapides. C'est que je me suis vu, d'abord, je me suis mis à dévorer les évangiles. Alors, les évangiles, je ne pouvais pas les lire auparavant. Moi, je me sentais un arien de l'an 2000, enfin, quasiment. Et je n'avais rien à faire de ces histoires qui me semblaient des histoires de juifs d'il y a 2000 ans, moi. Des histoires de troupeaux, de bergers, de machins, de sources vives, de trucs. Mais qu'est-ce que j'en ai à fiche ? Bon. Et d'un seul coup, j'ai eu l'impression, j'ai eu besoin de lire l'évangile, et j'ai eu l'impression que chaque texte avait été écrit spécialement pour moi. Et j'ai pris l'habitude d'ouvrir, comme font beaucoup les charismatiques, d'ouvrir l'évangile n'importe où au hasard, et d'y trouver chaque fois la réponse au problème que j'avais à ce moment-là. Donc d'abord, besoin de me tourner vers les Écritures. Et puis je me suis mis à voir des signes partout. Alors j'y reviendrai sur les signes, mais je vous jure que l'effet numéro un de ma conversion, ça a été de m'apercevoir que le bon Dieu me parlait à tout bout de champ, à travers des signes, des petits signes, des gros signes, des moyens signes, des clins d'œil, voilà. Donc je me suis mis à rentrer en relation avec Dieu. Bon. Alors, il s'est passé ensuite, j'ai besoin de lire les évangiles, puis la Bible, voir des signes partout, puis je me suis mis également à découvrir que dans les évangiles, et là j'y reviendrai aussi, le Christ n'arrêtait pas de faire des miracles, et que la condition pour qu'un miracle se produise, c'était qu'il fallait lui demander d'en avoir confiance. Si on était certain que le miracle allait se produire, ben le Christ disait, ta foi t'a sauvé, alors tu peux marcher si tu étais paralytique, tu peux te lever, tu peux te voir si tu étais aveugle, tu peux... Bon, voilà. Alors, il y a eu des moments de ma vie où, ben déjà j'avais eu ce premier miracle de la conversion, c'est quand même un miracle, vous en conviendrez. Je me suis mis à demander d'autres miracles. Et croyez-moi si vous voulez, tous ces miracles se sont réalisés. Il y a eu un premier miracle. J'étais en vacances en Normandie. On me téléphone. On me dit, maman a un cancer du pancréas. Vous savez qu'un cancer du pancréas, on en meurt à tous les coups. Quasiment. J'en parle à un ami chirurgien, franc-maçon, qui me dit avec délicatesse, ta mère, elle sera nettoyée dans 6 mois. Bon. Alors, entre Cherbourg, où j'étais en vacances, et Lyon, j'ai pris l'habitude de la prière, j'ai récité le chapelet non-stop. Je suis arrivé à l'hôpital à Lyon, j'ai vu ma mère en train de discuter avec un moine, c'était un frère de la communauté Saint-Jean, apaisée, rayonnante, radieuse. On l'avait opérée. Elle était guérie. Alors, elle n'a même pas eu de chido, rien du tout, elle était guérie. Le miracle total. Alors je me suis mis à demander d'autres miracles, et il y a un miracle qui m'a beaucoup été utile dans la vie. Bon, à cette époque-là, je n'avais pas de femme. J'étais même plutôt, on va dire, coureur, comme ça. Bon, donc j'avais des aventures sans lendemain qui ne me satisfaisaient pas, en tout cas pas pleinement. Et un beau jour, je me suis mis, je me suis dit, je vais demander. Donc pareil, j'ai mis par écrit une petite intention de prière, « Envoie-moi à la femme que tu me destines. » C'était à la Toussaint 1996. Quelques jours après, je suis invité à un anniversaire de la femme d'un de mes associés, et là, je rencontre la dernière fibo que Jean-Christophe, mon beau-frère, n'avait pas encore enlevée. Donc, ma future femme, ça a été le coup de foudre, je l'ai demandé en mariage le lendemain. Donc voilà, une succession de miracles. Et alors tout ça a fait que cette vie professionnelle qui était la mienne, qui était riche, qui était également enrichissante, qui était valorisante, je faisais partie alors, pour la franc-maçonnerie, je faisais partie du bon club, je faisais partie du meilleur Lions Club de Lyon, je faisais partie du Cercle de l'Union à Lyon, c'est l'équivalent du Cercle Interallié à Paris. Bon, j'étais pleinement comblé. Et tout ça, petit à petit, mais c'est insensible, a commencé de me paraître insupportable. Mais ce n'est pas venu du jour au lendemain. Il a fallu des années pour que, petit à petit, goutte à goutte, c'est un peu comme le supplice chinois, vous voyez, une goutte, puis une goutte, puis une goutte. Alors j'ai commencé à plus pouvoir supporter la franc-maçonnerie. Je n'ai pas quitté la franc-maçonnerie parce que la Sainte Église catholique et romaine interdit d'être catholique et franc-maçon. J'ai quitté la franc-maçonnerie parce que petit à petit, ça s'est mis de l'intérieur à me dégoûter profondément. J'étais pas dans une obédience anti-chrétienne, j'étais même dans une obédience où il y avait des prêtres. Bon, j'en ai rencontré. Et qui pensaient être bien dans leur position de prêtre. Bon. Mais petit à petit, je me suis rendu compte que j'étais dans une secte gnostique qui était aux antipodes du message exotérique des évangiles, qui dit que son message est accessible à tous, et notamment aux plus simples et notamment aux enfants. C'est évidemment incompatible avec un discours qui consiste à dire que le message du Christ, en fait, contient des éléments qui sont réservés à des initiés, et qu'entre le premier degré et le 33e degré du rite écossais ancien accepté, on découvre des... Donc ça a fini par me dégoûter profondément, je ne pouvais plus y aller. Je m'inventais des prétextes pour sécher. Et à la fin, j'ai fait une lettre pleine d'humour à mes frères en leur disant que ceux d'entre eux qui me connaissaient mieux savaient que je les trompais pour une maîtresse exigeante, et que cette maîtresse était la Sainte Église catholique et romaine. Alors, il paraît que quand on a vu ma lettre de démission dans la loge, ça a été l'éclat de rire pour certains, et d'autres, ça les a pas fait rire du tout. Bon. Donc j'ai quitté la maçonnerie en 2002-2003, et puis mon boulot a commencé véritablement de me paraître insupportable. Mais je ne savais pas encore précisément ce que j'allais faire derrière. Alors c'est plutôt, là c'était une longue introduction, mais pour vous brosser le cadre, et maintenant je vais vous expliquer plus précisément comment s'est passée ma reconversion, qui fait suite à ma conversion, et peut-être que ça peut vous aurez peut-être l'occasion, à différentes étapes de votre vie, de vivre des situations pareilles. Je voudrais essayer de vous donner quelques éléments de repérage, des points de repère qui ont trait à mon expérience. Donc la première chose que j'ai vécue, et le premier conseil que je vous donnerai, c'est qu'il faut écouter ses voix pour trouver sa voix. Écouter ses voix. J'avais une petite voix intérieure, presque inaudible, mais qui me disait « t'es pas à ta place, ce que tu fais t'intéresse pas, t'es pas fait pour ça, tu t'épanouis pas ». Mais la plupart du temps, cette voix, elle était noyée dans le tintamarre de ma vie, hein. Surtout qu'aujourd'hui, on se noie d'activités, puis c'était le début d'Internet, et puis c'était le début du téléphone portable. Alors bon, cette petite voix, bien souvent, on l'étouffe. Bien. Alors il y a des personnages célèbres hein, qui ont eu des voix, bien sûr, à commencer par Jeanne d'Arc. Hein. Jeanne d'Arc qui a écouté ses voix. Alors, il paraît que j'ai un lointain lien de parenté avec elle, là. J'ai écrit ça à mes élèves. L'autre jour, je leur passe un film sur Jeanne d'Arc et je leur montre le frère de Jeanne d'Arc, Pierre d'Arc, et je dis ça, c'est mon ancêtre. Et alors, il y en a un qui me dit, monsieur, c'est pas possible que vous descendiez du frère de Jeanne d'Arc, parce qu'à l'époque, les DVD n'existaient pas. Bon. Donc, alors, écoutez, savoir écouter ses voix. Il y a aussi un roman de Hermann Hesse qui s'appelle Le Loup des Steppes. Et c'est l'histoire d'un type qui change complètement de vie parce qu'il écoute cette petite voix en lui. Qu'il appelle le loup des steppes, hein, voilà, une sorte d'animal sauvage qui lui parle. Il y a aussi Charles de Foucault avec cet appel du désert. Bon voilà, donc sachez, écoutez la petite voix qui est en vous et qui parfois est inaudible, hein, mais lorsque vous lui laissez toute son ampleur, eh bien, elle devient assourdissante et elle vous fait complètement changer de voix. Il faut savoir aussi que, et c'est ce que j'ai vécu, la bonne voix, VOIE, c'est pas forcément celle pour laquelle on a été programmé. Moi, j'avais été, donc, comme je vous le disais, programmé pour faire normal sup, plénat, préfet. Ayant échoué ces concours, on m'a dit, c'est pas grave, tu vas faire des cabinets d'audit. J'avais un père qui était un homme qui a toujours travaillé dans l'entreprise, qui dirigeait la chambre de commerce de Lyon et qui n'aurait jamais imaginé ni toléré une seconde que je puisse vouloir devenir petit prof. Hein. Donc, notre voix, c'est pas forcément celle pour laquelle on a été programmé, celle de nos parents. C'est pas non plus forcément celle pour laquelle la société nous prépare. L'autre jour, chez le médecin, je voyais la couverture du point, donc les conditions pour réussir, il faut être se couler dans le moule de ce que nous demande la société, etc. Bon, la société nous présente tout un tas de modèles qui sont valorisants, et quand j'avais votre âge, le modèle, c'est celui du Golden Boy. Voilà, bon, donc j'étais attiré par ces métiers de la finance, de l'argent facile. Et puis, il y a aussi une chose que j'ai découvert, c'est que la voix VOIE, ma voix, c'est pas forcément celle de mon ego. Je me souviens, quand j'étais en IPOCAL, le prof de français nous avait dit « La plupart d'entre vous seront profs de lycée. » Je me dis « Mon Dieu, quelle honte, prof de lycée !» D'ailleurs, moi qui rêvais à l'époque d'avoir un château, des chevaux, voilà, bon, etc. Je rêvais de une vie, bon, je rêvais ma vie, quoi. Et mon ego était très attaché à un certain nombre de choses. Donc j'ai calé ma vie professionnelle par rapport à cet ego et ce film de ma vie que je m'étais fait. Bon, là aussi, c'était pas la bonne voie. Donc la bonne voie, hein, je crois que c'est d'abord, il faut découvrir la sienne propre. Et ça, c'est le connais-toi toi-même dont parle Socrate. Hein. Il faut du temps pour se connaître soi-même. On peut avoir de la chance et trouver tout de suite la bonne voie. Moi, j'ai une femme qui est archéologue. Et très rapidement, elle a découvert qu'elle voulait être archéologue, elle a fait des études d'archéologie, elle est archéologue, et maintenant elle a 50 ans, elle s'éclate dans l'archéologie. Tant mieux! Quoiqu'il n'y a pas eu comme moi des parents qui lui disaient « voilà ce qu'il faudra que tu fasses plus tard ». Bon, elle était plus libre. Bon. Donc le connais-toi toi-même avec l'âge, ben, c'est quelque chose d'important. Mais je crois que celui qui nous connaît le mieux, c'est notre créateur. Hein, voilà. Donc au moment où je me sentais le plus mal dans ma vie professionnelle, je ne savais pas du tout ce que j'étais fait pour faire. Je me suis mis à prier. Je me souviens, j'allais travailler, je partais de chez moi, je commençais un chapelet, j'assistais le chapelet jusqu'à ce que j'arrive au bureau, et au retour, j'assistais le chapelet, et je demandais inlassablement, « Seigneur, montre-moi ma voix, Seigneur, montre-moi ma voix, Seigneur, montre-moi. » Bon. Ça a duré des mois. Hein. Et puis un jour, ben, j'ai trouvé ma voix complètement par hasard, en tombant sur le programme du concours d'agrégation d'histoire. Je me suis dit, « Mais bon sang, ça me passionne, je vais tenter ce concours. » Mais j'y reviendrai. Ah, même des paroles en musique, c'est un grand honneur. Bon. Moi, je n'ai pas trouvé d'autre moyen pour découvrir ma voie que de demander à Dieu de me la donner. Je dis, tu es mon créateur, tu me connais mieux que moi-même, tu connais mieux que moi mes possibilités, dis-moi ce que je dois faire, je suis perdu. Et il l'a fait. Alors, comment est-ce qu'on entend sa voix? Donc, cette voix, je disais donc dans la prière. Je dirais aussi que j'ai demandé à un moment où je me posais des questions à d'autres de prier pour moi. Je crois qu'il ne faut pas avoir honte de demander à des amis de prier. Il y a des gens qui ont prié pour moi. Il y a des gens qui ont prié sur moi. C'est-à-dire, je me souviens d'être allé chez des amis. Je n'avais pas du tout le moral. Je me suis mis à genoux au milieu du salon et toute la famille s'est mise à prier sur moi. Notre organisme est aussi un indicateur parce que je me souviens qu'à un moment donné, au moment de ma reconversion, j'en étais quasiment tombé malade, je ne pouvais physiquement plus aller travailler. J'étais quasiment tombé en déprime. Il y a effectivement des indicateurs physiques qui disent, bah là, on ne peut plus. Effectivement, ça peut être la déprime. Je ne souhaite pas que ce soit le cancer, mais parfois le cancer, c'est le genre de chose qui dit halte là. Hein. Voilà, donc, savoir écouter ses voix, leur laisser le temps, ça prend du temps, ça prend des années, moi, il va falloir 10 ans précisément, entre ma conversion et ma reconversion, beaucoup de prières, voilà. Et puis un jour, eh bien, je me suis apprêté à sauter le pas. Je ne vous cache pas que c'était avec une certaine appréhension. Hein, quitter un bon job chez EDF, bien payé, pour se retrouver à passer un concours où il y a 92 places pour 3300 candidats, sachant que j'avais fait des études de droit et sciences politiques, et pas spécialement des études d'histoire, bon, j'avais une certaine appréhension. Et c'est là que arrive le deuxième conseil que je voudrais donner, la deuxième chose dont je voudrais témoigner, il faut absolument croire au miracle. Je crois que si on est chrétien et qu'on ne croit pas au miracle, eh bien on n'est pas chrétien. Voilà. Bon. Comme je vous le disais tout à l'heure, les évangiles sont un lancinant appel à croire au miracle. Et le Christ des miracles, il en fait à l'appel. Bon. Donc, on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Si le Christ en permanence nous dit qu'il faut croire au miracle, eh bien, croyons au miracle et demandons-les et soyons persuadés, puisque c'est la condition qu'ils vont se réaliser. Donc, j'ai eu le sentiment, en me lançant dans le vide, alors j'étais marié avec des enfants en bas âge, j'ai eu le sentiment de tout simplement passer aux travaux pratiques. Il y a la lecture, théorie, on va à la messe, et puis un jour, on se jette dans le vide, sans filet, et on se dit, quelqu'un va me rattraper entre l'avion et le sol. Ben, c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, je vous ai effectivement donné un certain nombre d'exemples de miracles qui étaient d'ores et déjà arrivés dans ma vie. Donc, j'avais déjà eu conscience que le miracle peut arriver. J'avais conscience et une relative confiance. Mais je me suis imposé, entre le moment où j'ai pris l'inscription au concours d'agrégation et le moment où j'ai eu les résultats du concours, c'est-à-dire pendant à peu près un an, je me suis imposé comme règle de ne jamais douter. Et croyez-moi, c'est un sacré exercice. Et puis, bon Dieu nous envoie des petites épreuves au milieu. D'habitude, l'agrégation, il y avait 180 places pendant des années. Et puis ensuite, c'est tombé à 120 pendant des années. Donc, j'étais parti dans l'idée qu'il y avait 120 places. Et l'année spéciale où je le présente, il y en avait plus de 92. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, 92 places. Mon Dieu, mais qu'est-ce que tu fais? Je me suis même à cet instant interdit de douter. Donc, c'était... Bon, je ne dis pas que j'ai pas réalisé. J'ai réalisé comme une bête. J'ai travaillé 12 heures par jour, 6 jours sur 7, sauf le dimanche, pendant 365 jours d'année. Bon. Mais, donc, j'ai travaillé, je me suis aussi payé les meilleures formations. Bon, voilà. Un coach, j'ai mis toutes les conditions objectives de mon côté. Mais j'ai mis le ciel de mon côté en m'interdisant absolument de douter. Et je peux même vous dire une chose, c'est que lorsque les résultats sont arrivés, j'avais d'ores et déjà demandé à la petite chapelle à côté de chez moi une messe d'action de grâce. Fait le chèque, 16 euros. Messe d'action de grâce, alors qu'on était à une semaine des résultats. C'était complètement improbable. De même, je n'étais pas moi-même allé voir les résultats. Une amie de ma femme, au téléphone, une universitaire, me dit « Tu as réussi, tu es 59e. » Et je sais que j'ai réussi. Elle me dit « Ah bon, tu as été voir ?» Je dis « Non. » Mais voilà, je me suis interdit absolument le moindre doute. Enfin, j'ai fait, encore une fois, j'ai vécu cette préparation du concours comme des travaux pratiques de ce que je lisais le soir chez moi et ce que j'entendais à la messe, etc. Et puis, alors je m'appelle Jean-François, donc mon saint c'est Saint-Jean-Baptiste. Mais j'ai un saint d'adoption qui est Saint-Jean-François Régis parce que j'ai une maison à côté de la Louvée. Donc j'avais promis à Saint-Jean-François Régis un ex-voto si j'avais le concours, mais là aussi j'ai fait faire l'ex-voto avant d'avoir les résultats du concours. Donc voilà, je les ai coincés. Bon. Alors, donc ça c'est le deuxième conseil, il faut absolument croire au miracle. Le troisième conseil que je voudrais vous donner, c'est d'observer les signes. Parce que bien sûr, quand on fait ce que j'ai fait, on est un petit peu dans le noir. Moi j'avais une image qui me venait souvent à l'esprit au cours de cette année, je descends dans une cave complètement obscure où on ne voit rien. J'avance dans la cave, le doigt en avant, je ne vois rien. Et je sais qu'au fond de la cave, je vais tomber juste sur l'interrupteur et tout va s'éclairer. Mais j'étais dans l'obscurité complète. Je doute, je m'interdisais le doute, mais j'avançais avec la foi du charbonnier. Alors, moi, ce qui m'a frappé, comme je vous le disais tout à l'heure, depuis ma conversion, c'est les signes. Il y a les miracles et il y a les signes. Je suis frappé de voir à quel point le Seigneur nous parle, me parle en tout cas, en permanence par des signes. Il y a des petits signes. Allez, Seigneur, je suis à la bourre, trouve-moi vite une place de parking. Pauvre, tiens. On s'est garé où, Jean-Christophe? Devant l'immeuble tout à l'heure. Bon, voilà. Claque. Bon, petit signe. Il fallait qu'on se garde devant l'immeuble. Il y a une voiture qui partait quand on est arrivé. Il y a des moyens signes. Et puis, il y a les gros signes. Je vais vous raconter une anecdote, vous ne pourrez pas si vous voulez, mais elle est tellement. Un jour, quelqu'un m'a dit non, faut vous arrêter de la raconter, celle-là, parce qu'on va vous prendre pour un fou. Alors, prenez-moi pour un fou, je vais vous en raconter une. Août 2001, je suis en vacances dans la Drôme. Un ami qui a une propriété pas très loin d'ici vient me voir. Ce garçon, forte personnalité, très en rébellion contre la religion. Donc il vient nous voir avec sa femme et pendant toute la journée, il ne fait que blasphémer lourdement. Et moi ça m'embête parce que je sais que c'est un gars qui a une... reçu beaucoup de choses dans sa jeunesse, il était simplement en rébellion. Ce gars-là, bon, en plus, il vit maintenant aux États-Unis, à New York, il représente la ville de Lyon à New York, et il a des bureaux dans le World Trade Center. Bon, alors je suis embêté, à la fin j'écris pour lui, et un jour, le 10 septembre 2011, donc un mois plus tard, je suis à un rendez-vous professionnel à Gap. Et le lendemain, je me rends en rendez-vous professionnel à Grenoble. Et je passe devant sa propriété qui se trouve dans la Drôme, sur la route entre Gap et Grenoble. Et là, ça me fait penser, Bruno, ah tiens, Bruno, il faut que je prie pour lui. À ce moment-là, je vois une flèche, la Salette. Ah, je dis, bah, tiens, je savais pas où aller dormir. Plutôt qu'un hôtel miteux à Grenoble, je vais aller dormir à la Salette. Alors j'arrive à la Salette, j'étais en costard-cravate, on m'a donné du mon père comme le bras. Et pour ceux qui sont allés à la Salette, il y a une énorme statue de la Vierge et on peut acheter des cierges qu'on va mettre au pied. J'achète le plus gros cierge, cette plaisanterie a dû coûter 30 balles à l'époque, 5 euros. Je le pose au pied de la Sainte Vierge et je dis, pendant, je reste, Sainte Vierge envoie un signe à Bruno, Sainte Vierge envoie un signe à Bruno. Bruno, c'est le survivant français du World Trade Center. C'est le gars qui est sorti 5 secondes, qui a mis une heure à descendre et qui est sorti 5 secondes avant que tout ne s'effondre. Donc le 10 septembre, au soir, je prie la Sainte Vierge pour qu'elle lui envoie un signe. Le 11 septembre, il se prend l'immeuble sur la tête. Bon. Et, alors pendant des heures, on ne savait pas ce que Bruno était devenu. J'appelle la chambre de commerce de Lyon, tout ça. Pas de nouvelles de Bruno. Mais moi, au fond de moi, je savais que... Vous allez me prendre pour un fou, je ne prétends pas que c'est moi qui lui ai fait, qui a envoyé Ben Laden, mais je vous jure que cette histoire est vraie. Et à ce moment-là, j'étais en plus à Grenoble, entendant la radio, qui annonçait les événements, j'étais au pied d'une pharmacie, et ça clignotait. Pharmacie Saint-Bruno, 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 Saint-Bruno. Voilà. Comment peut-on ne pas croire aux signes en permanence? Bon, alors ensuite, il a fait son bouquin. Et il a dédicacé à Jean-François, dont les prières m'ont peut-être sauvé la vie. Ça, je ne sais pas si mes prières lui ont sauvé la vie. Mais la seule chose dont je suis certain, c'est que le 10 septembre, au soir, j'ai prié pour que la Vierge lui envoie un signe. Bon. Donc, voilà. Alors, plus modestement, il y a évidemment tous les signes. Quand j'ai préparé ce concours, hein, puisqu'il s'agit de ma reconversion, il y a tous les signes que j'ai pu avoir pendant l'année du concours. Donc, il y a d'abord le signe qui va montrer que je devais préparer ce concours. Moi, je suis passionné par l'évangélisation des musulmans. C'est mon dada. Le programme cette année en histoire antique, c'était la christianisation d'Afrique du Nord, à l'époque romaine. Alors là, je me suis inscrit au concours rien que pour étudier ça. Bon. Ensuite, j'ai comme beaucoup d'entre nous une dévotion pour Sainte Thérèse de Lisieux. La veille des résultats d'admissibilité, la veille des résultats de l'écrit, les reliques de Sainte Thérèse étaient de passage à Lyon. Je suis allé passer l'après-midi en prière devant les reliques de Sainte Thérèse, les résultats de l'écrit étaient affichés le lendemain. Et devant les reliques de Sainte Thérèse, j'ai eu la certitude que j'allais être admissible. Ça m'a rempli une certitude évidente. Les reliques de Sainte Thérèse étaient là la veille des résultats d'écrit. Je vous parlais de mon Saint Jean-François Régis. Au concours d'agrégation, il y a une épreuve plus à l'oral, plus importante que d'autres, celle qu'on appelle le hors-programme. Eh bien, l'épreuve de hors-programme pour moi est tombée le jour de la Saint Jean-François Régis. Comment ne pas voir des signes évidents dans tout ça? Donc, certes, je vous disais, j'étais dans le noir absolu, et pourtant, pendant une année, j'ai eu ce genre de signe, il faut quand même admettre que c'est assez incroyable. Alors après, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Là, tout de suite, alors j'avais en plus entamé une thèse, qui avançait bien, tout de suite, j'ai eu des tentations par le haut. Les gens sont venus me dire, mais un garçon comme toi, ce qu'il te faut, c'est l'université. Ce qu'il te faut, c'est les classes préparatoires. C'est les meilleurs lycées privés de centre-ville. J'avais pas encore l'appel de la banlieue de manière très claire, hein, mais j'étais pas attiré par la fac, par les prépas, etc. Bon. Mais là aussi, le monde, voilà, la famille, le milieu, l'ego, etc. Vise les classes préparatoires, etc. Et là, je n'y voyais pas très clair, donc je me suis fait coacher par un ami coach qui a accepté de me faire ça gratuitement en quelques séances. Et à la fin de ce coaching, il m'est apparu, donc un coach, ça peut être important pour mieux discerner la voie. Hein. Et la voie m'avait dit d'abord de me reconvertir, de devenir prof, et ensuite elle me disait, ta place est en banlieue. Donc, après ce coaching, il m'est apparu évident que j'allais atterrir en banlieue. Et là, j'avais prié très fort pour que le bon Dieu m'envoie dans l'établissement où il estimait que j'avais ma place. Alors, j'ai prié, n'empêche que quand j'ai vu qu'il s'agissait du collège Louis Aragon à Vénissieux, dans le quartier des Minguettes, j'ai vu ça sur Internet, j'ai eu l'impression qu'un gros point sortait de l'ordinateur pour aller me craser le nez. J'en suis resté groggy, j'ai dû aller me boire un verre de whisky. Les Minguettes, l'un des pires quartiers de la banlieue lyonnaise, c'était quand même un peu le grand écart entre les classes préparatoires de lycée chic auxquelles j'avais pensé au début et ça. Mais bon, j'ai dit, ok, mon Dieu, puisque c'est là que tu m'envoies, j'y vais, obéissance. Et là, j'ai des signes, mais j'en ai eu à la veille. La veille de la rentrée, donc la rentrée était un lundi, la veille, un dimanche, je vais à la messe dans mon quartier, paroisse chic de centre-ville. Le prêtre n'était pas là, au curé habituel. Il est remplacé par un grand black du Burkina Faso. Je vais voir à la fin, je lui dis, mon père, bénissez-moi, je suis terrorisé, je démarre demain au Maghreb. Et ça le fait mourir de rire. Il me dit, ma paroisse est jumelée au Burkina Faso, est jumelée avec celle des Minguettes. Vous verrez, il ne vous arrivera rien. Et il s'appelle le père Jean-Gabriel, comme mon père qui était décédé entre-temps. Donc Jean-Gabriel. Et depuis, le père Jean-Gabriel me téléphone régulièrement. Ça fait 6 ans. Allô, Jean-François, c'est le père Jean-Gabriel. Je vous appelle du Burkina Faso. Oui, ça va toujours bien, mais je continue de prier pour vous. Délirant. Bon. Le père Jean-Gabriel. Là-dessus, je fais connaissance de mes collègues, beaucoup de collègues maghrébins, beaucoup de collègues de gauche, et notamment une collègue d'histoire géo, mais alors trotskiste. Fille d'immigré, milieu populaire, mère, femme de ménage, et puis avec un look. Bon, trotskiste. Alors là, je fais comme on dit à l'armée, fomec. Hein. Ça veut dire camouflage. Forme, ombre, mouvement, éclat, couleur. Rien ne se voit. Effectivement, rien ne s'est vu. Un jour, on se retrouve seul en salle des profs, elle me dit « Dis-moi, Jean-François, quelle est la paroisse que tu fréquentes ?»« Bon, Marine, une paroisse, de quoi veux-tu parler ?» Elle me dit avec ta gueule de bourgeois cato, c'est Ennet ou Saint-Lizier, les deux paroisses bourges de Lyon. Bon, effectivement, je dis « Je fréquente Ennet. Mais qu'est-ce qui te permet de dire ça ?» Et elle me dit la chose suivante « Assieds-toi, je vais te faire une confidence. » Je fais partie de plus d'EI. Ça fait 5 ans que je prie pour que le bon Dieu m'envoie quelqu'un. Je crois que c'est toi. J'aurais préféré Brad Pitt, mais je fais avec. Alors, elle me dit, oh, tu peux parler de ta foi en salle des profs, ça fait 5 ans que j'y travaille. Là, aujourd'hui, la parole catho est dédouanée, comme on dit en langage franc-maçon, dédouanée en salle des profs. Et j'ai pu le constater. Marilyn, c'est celle qui rentre dans le bureau de la principale adjointe, qui mène une vie de patachon, bon voilà, et qui dit, madame, on est dans un collège public, je vous rappelle, madame, ça n'a pas l'air d'aller aujourd'hui. Alors l'autre, ben non, oui, effectivement, elle a quitté son mari pour une femme, elle a laissé ses enfants à Toulon pour faire carrière à Lyon, enfin bon, etc. Bon, non, effectivement, ça ne va pas. Et Marilyn qui lui dit, vous voulez qu'on prie ensemble ? Et l'autre tellement interloqué, ben oui, si vous voulez. Bon, Marianne, c'est un truc comme ça tous les jours. Un truc comme ça tous les jours. Des témoignages en salle des profs, à haute voix, devant tout le monde. Bon, voilà. Donc, il y a eu Marianne. Et puis, alors, des témoignages, des signes, puisque je vous parle de signes. Donc, effectivement, il y en a énormément, mais il y en a aussi du côté des élèves. Donc, moi, j'ai un public d'élèves qui sont, dans leur immense majorité, des élèves musulmans de naissance. Donc soit par l'immigration, beaucoup d'enfants qui sont des familles immigrées, bon, c'est des familles qui font aussi beaucoup d'enfants. Il y a aussi tous les mariages mixtes qui sont très nombreux. Un chrétien, une musulmane, ça fait des enfants musulmans. Un musulman et une chrétienne, ça fait aussi des enfants musulmans. Donc j'ai plein d'enfants qui sont issus de mariages mixtes, qui sont de fait biculturels, mais qui ne se définissent que comme musulmans. Et puis il y a un prosélytisme forcené des musulmans qui fait que tout le monde se définit comme musulman parce que c'est le meilleur moyen d'avoir la paix. Il y a une forme de, on va dire, de culture de classe. Hein. En banlieue, ça ne pose de problème à personne, il faut être musulman. Moi-même, les élèves me font du rentre-dedans en permanence pour que je devienne musulman. L'autre jour, et ma course était particulièrement bien passée, des élèves écrivent au tableau « Monsieur Chemin, vous êtes sur le chemin du din ». Je dis « C'est quoi le chemin du din ?»« Bah, c'est la conversion à l'islam, bien sûr. C'est le plus beau compliment qu'ils puissent me faire, que je vais me convertir à l'islam. » Alors, je ne suis pas là, je vous raconte la vie en rose, mais la vie aussi, c'est que la France s'islamise, non pas de manière rampante, mais de manière galopante. Hein, je suis aux premières loges pour assister à l'islamisation galopante de la France. Néanmoins, les signes, j'en vois là aussi tous les jours. C'est une gamine particulièrement difficile, musulmane, dont le père est venu me voir et m'a dit « ma fille, elle est vicieuse ». La seule chose qu'il avait à dire, un gars qui doit avoir 70 ans, qui a une fille de 12 ans, la seule chose qu'il pouvait me dire « ma fille, elle est vicieuse ». Bon, cette gamine que j'ai dû apprivoiser, parce qu'au départ c'était vraiment une sauvageonne, eh bien l'autre jour m'a montré « monsieur Chemin, regardez, qu'est-ce qu'elle avait dans la main ? Un chapelet chrétien, avec une croix ». Je lui ai pas posé de question, je lui ai dit « cache ça, cache ça ». Mais bon, parce qu'il ne faut pas qu'elle ait d'histoire avec les autres. Pourquoi est-ce que cette gamine avait un chapelet? Qui lui a donné? Pourquoi est-ce qu'elle me l'a montré? J'ai simplement vu cette croix et ce chapelet dans cette main. Et ça m'a bouleversé, parce que c'était complètement inattendu. C'est le cours de 5e sur... donc en 5e, il y a l'Europe chrétienne. Bon, donc je fais un jour un cours sur les sacrements dans l'Église catholique. J'avais prévu de passer 10 minutes, il y avait une enluminure dans le manuel, un baptême, une autre enluminure, une extrême-onction. On a passé 2 heures sur les sacrements dans l'Église catholique. Ils voulaient tout savoir. Ils étaient bouleversés du fait qu'on puisse avoir une religion dans laquelle Dieu se donne aux hommes comme ça, pour leur donner la force, pour leur donner la possibilité, la capacité de faire face à telle ou telle situation, que cette situation soit le mariage, qu'elle soit l'ordination, qu'elle soit la mort, etc., la maladie. Ça les a bouleversés, on y a passé 2 heures. Hein. Une autre fois, on étudie toujours cours de 5e, on étudie les fêtes chrétiennes, et d'un seul coup, une gamine, une musulmane, qui s'écrit alors qu'on venait de parler de Pâques, « Oui, monsieur Chemin, je crois, Jésus est ressuscité. » Bon, alors évidemment, ça se produit, j'ai beaucoup plus souvent des professions de foi islamistes que ça, mais quand ça arrive, je dis, mais c'est pas vrai, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Ou bien cette classe de 4e, en plein dérapage islamiste, je ne sais pas comment rétablir l'ordre, je trouve le DVD sur ma tante Jeanne d'Arc que j'enfourne dans le lecteur de DVD, et au moment où la sonnerie retentit, Jeanne d'Arc est au pied de la muraille d'Orléans, elle fait cadrer son cheval blanc, elle s'écrit « En avant mes frères, pour Dieu et pour la France ». D'habitude, quand la sonnerie retentit, ils sont déjà tous dehors, le cartable sur le dos, l'anorak fermé, la capuche sur la tête, là personne ne voulait sortir. Mais non, attendez, monsieur, c'est le meilleur moment. Vous ne pouvez pas nous faire ça, de la suite. Bon, voilà. Alors, effectivement, je suis frappé de voir la multitude des signes qui se produisent bien souvent de la manière la plus imprévue. Donc, je vous disais, hein, je reprends mon fil, hein, donc écouter ses voix pour trouver sa voix, croire au miracle, suivre les signes. Et les signes, donc, je dirais, c'est des petites lumières dans l'obscurité. Je ne voudrais pas non plus passer pour un illuminé qui voit uniquement la vie en rose. À mesure que j'avance sur ce chemin, qui est celui de ma reconversion, qui est celui de ma conversion aussi, parce qu'on n'a jamais fini de se convertir, je suis frappé de voir que plus on avance, plus les épreuves se multiplient. Et là, par exemple, en ce moment, hein, où je parlais de signes, etc., mais je suis très frappé de voir à quel point il y a une atmosphère qui se tend chez nos jeunes, notamment chez les élèves, une atmosphère explosive. Hein. J'ai un collègue de mon âge qui vient de perdre un œil, parce qu'un élève a envoyé pendant le cours un morceau de gomme trempé dans la colle, avec une sarbacane, il l'a reçu dans l'œil, il a perdu un œil. J'ai une petite collègue débutante qui a perdu tous ses cheveux, après s'être fait agresser par un de nos élèves d'origine marocaine qui ne supportait pas qu'une femme prétend avoir autorité sur lui. Notre collège a été entièrement saccagé il y a quelques semaines. Quand je dis saccagé, c'est vandalisme, plus vol de tout le matériel informatique par des élèves, on sait très bien qui a fait ça. Bon. Un de mes collègues a également été frappé. Un autre, on a viré un élève récemment, et on a pas mal de conseils de discipline. On a viré un élève. Le père était furieux, pas contre son fils, mais contre nous. Il faut dire, par exemple, ce que ce gamin avait dit à un prof d'anglais. Il avait demandé « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Il avait dit, il avait répondu « je veux braquer des banques et buter des enfants. » Mais c'est pas ça qui lui a valu le conseil de discipline, on l'a gardé encore longtemps. Hein. On l'a viré quand il a essayé de mettre le feu au collège avec un briquet. Bon, le père prenait mordicus la défense de son fils. Lorsque la principale a dit « enfin madame, monsieur, votre fils m'a déjà fait 5 fois des doigts d'honneur », le père a répondu « il aurait dû vous en faire 2 fois plus ». Bon, c'est dur la banlieue, c'est dur. Hein. Et puis, alors, mon engagement aussi, c'est un engagement, je suis là aussi pour essayer de transmettre l'amour de la France, de ce pays, à mes élèves. Et il n'y a pas de jour, en ce moment, où je fais des dérapages. Des élèves qui me prennent à partie pour la guerre d'Algérie, pour la colonisation, avec violence. Hein. Et puis, régulièrement, je perds mon calme. En ce moment, je suis peut-être un peu fatigué, mais régulièrement, je perds mon calme. Mais vous savez, un prof qui perd son calme, il fait la une du journal de 20h. On nous dit il faut extirper le cerveau des enfants, les croyances ancestrales, la tyrannie de la famille. Oui, mais ça c'est valable quand il s'agit d'extirper les croyances catholiques. Mais allez essayer d'extirper l'islam des cerveaux de ses enfants, vous verrez si vous êtes soutenu par l'éducation nationale. Bon. Donc, le quatrième point, un peu sombre peut-être, mais parce que ça me trotte dans la tête, je pense qu'il faut se préparer au martyr. C'est ce que je pense. Il faut se préparer au martyr. Alors ça, je vous en ferai une approche un petit peu théorique, même si je ne suis pas un grand théologien, mais je lisais récemment un livre sur l'abandon à la Providence, et effectivement, je disais que plus on avance dans la foi, plus Dieu nous envoie des épreuves, que plus on peut en porter, plus il nous en donne. Voilà, bon, donc je me dis, bah tiens, j'avance. Qu'est-ce qui m'attend? J'ai des inquiétudes, c'est comme ça, je m'en confesse. Je vous parlais de Jeanne d'Arc tout à l'heure, on sait tous comment elle a fini, hein. Même Saint Jean-François Agis est mort de froid dans la neige en allant évangéliser. Voilà, donc, alors, je m'attends parfois à un grand martyr. Je pense à mon collègue Philippe Isnard, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a été viré de l'éducation nationale pour avoir passé un film, comme il le faisait depuis 15 ans, hein, sur l'IVG. Il a été viré, il y a eu une vraie campagne de presse. Aujourd'hui, si vous tapez son nom sur Internet, vous verrez qu'il est vraiment poursuivi. Le moindre de ses déplacements est suivi par les laïcs, hein, ceux qui s'appellent les laïcs, c'est-à-dire pour IVG, etc. On dit attention, il intervient sous tel pseudonyme sur tel site internet. Attention, il fait une conférence dans telle ville. Attention, il y a des affiches à tel endroit, c'est lui qui a dû les mettre. Il est vraiment suivi à la trace. Moi, je ne supporterai pas ça. Et je l'ai appelé l'autre jour, je lui ai dit qu'est-ce que tu viens de retrouver du boulot en France? Il me dit non. Et bien en plus aujourd'hui j'ai un procès sur le dos, je suis obligé de vivre à l'étranger. C'est ça le martyr. Voilà un gars qui est certainement beaucoup plus avancé que moi dans la foi. Mais bon, j'ai parlé également un jour à Louis Chagnon, j'étais aussi en dédicacé nos livres côte à côte. Bon, lui c'est un gars qui était protestant, qui est devenu catholique. Mais l'épreuve qu'il a subie l'a renforcé dans sa foi. C'est un gars qui a critiqué l'islam comme le ministre nous demande de le faire. Hein, en cours, des parents sont allés porter plainte, il a été viré de l'éducation nationale. Après une campagne de presse, moi je serais incapable de supporter ça. Alors il y a ces grands martyrs, et puis il y a cette multitude de petits martyrs, comme ceux que je vous décris, il y a ces enfants qui courent après cours, prennent à partie par rapport à la France, par rapport au christianisme, par rapport, etc. Et il faut garder son calme, il faut répondre, mais très profondément, je me sens à chaque fois personnellement agressé, et injustement agressé, parce qu'après tout, si la France est le pays criminels que disent ces gens, mais qu'est-ce qu'ils y font? Moi, un Turc l'autre jour qui me dit « Monsieur, la France c'est un pays de merde, la Turquie c'est le 8e pays du monde, etc. » Je ne pouvais pas lui dire « Mais si t'es pas content, retourne en Turquie. » Mais je vous assure, c'est un supplice pour le prof qui croit en la France et qui croit en la France fidèle et l'Église que de vivre ça quotidiennement. Hein, le tout encouragé par les programmes scolaires et la culture gauchiste, pour le moins, de l'éducation nationale. Donc voilà, pour moi, ça n'est pas encore le cas, je ne me sens pas encore martyr, mais c'est quelque chose, sans vraiment savoir la forme que ça pourrait prendre, à laquelle je me prépare, parce que je constate que c'est le lot commun de tous les gens qui, à un moment donné, ont cheminé dans la foi, et à un moment donné, où le Seigneur leur envoie, pour leur bien et pour la construction du royaume, des épreuves plus dures que d'autres, et peut-être... mais chaque fois, il nous donne la force de les supporter. Alors, pour terminer, ça va bientôt faire une heure que je parle, donc je dirais que, après vous avoir effectivement décrit ce parcours, hein, conversion, reconversion, bon, bah, je suis un prof de banlieue qui a la satisfaction d'être pleinement engagé dans son boulot et dans la mission que je me suis fixée. Dans ma jeunesse, j'avais l'obsession, enfin la fascination de la politique. Aujourd'hui, la politique, ça ne m'intéresse plus du tout. J'ai l'impression d'en faire de la politique. J'ai l'impression de faire de la politique. Je suis au contact de jeunes de banlieue. Je les aime, ils m'aiment, ça se passe très bien. On a beaucoup d'amitié les uns pour les autres. Ils m'écrivent des lettres d'amour et j'essaye de leur faire passer un certain nombre de choses qui ont trait à mes convictions. Parfois ça passe, parfois ça passe pas. Mais en tout cas, c'est mon combat quotidien et j'ai le sentiment de faire très profondément ce qui m'intéresse. Hein. Donc, moi, ce que j'ai découvert à travers mon cheminement, sur la durée, c'est que je suis persuadé que Dieu a une mission pour chacun de nous. Il a une idée très précise de ce que nous sommes faits pour faire. Là, on peut le découvrir très tôt, comme ma femme qui, très tôt, a découvert qu'elle allait être archéologue et qui est, ça se passe très bien. On peut le découvrir très tard, peut-être le découvrir à la retraite, mais si on se sent un peu perdu dans ce qu'on fait, pas à sa place, etc., il faut savoir que certainement il y a un endroit où vous allez exceller, vous réaliser et où Dieu vous attend. Le tout, c'est de le découvrir. Bon, c'est la chance que j'ai eue. Aussi l'accepter, parce que c'est pas forcément glorieux. On peut se rêver préfet à 15 ans, mais petit prof de banlieue, promu à l'ancienneté à 50. Ben voilà, donc il faut accepter. Et puis également, il faut avoir confiance, parce que je crois que le jour où le Seigneur nous désigne notre place, eh bien, il nous permet de réussir la reconversion, il nous permet d'intégrer cette place, il nous permet de faire en sorte que ça se passe au mieux. Donc, même si j'ai terminé un petit peu sur une vision un peu, je ne dis pas pessimiste, mais enfin, on va dire, on s'est excité de martyr, je crois que très profondément au fond de moi, je vis dans l'espérance, quotidiennement, parce que je m'aperçois que je suis là où je suis vraiment utile. Que je fais vraiment ce pour quoi je suis fait, et ça me permet d'avoir la certitude que vraiment, on va y aller. Merci.